Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Insécurité, comment parvenir à éradiquer le terrorisme au Mali? C'est le thème qui sera largement débattu ce soir au cours de ce grand dialogue. L'armée malienne a annoncé ce week-end avoir tué un chef terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et deux de ses lieutenants au cours d'une opération dans la région de Meneka. Selon le communiqué de l'état-major, des matériels de guerre ont aussi été détruits. Ce même week-end, plusieurs incidents sécuritaires ont été enregistrés dans le pays, notamment de la région de Gao. Quelle analyse de cette situation? L'évolution de la lutte contre l'insécurité au Mali est-elle rassurante ou inquiétante? Que faut-il craindre de la lutte contre le terrorisme? Studio Tamani ouvre donc le débat délocalisé sur le site du festival Ogobanyan. Nos invités, Paul Oula, analyste de questions sécuritaires, Dr Yakuba Dogoni, sociologue, enseignant à l'Université du Mali et chercheur associé au Centre de recherche Point Sud, Docteur Bakabini Keïta, enseignant-chercheur à l'ENSUP. À la présentation, je suis Miranakilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Docteur Bakabini Keïta, quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire dans le pays?
Monsieur Maïga, permettez-moi de saluer mes co-débatteurs. Remercier Studio Tamani pour l'invitation.
Merci.
Permettez-moi aussi de remercier les téléspectateurs, les auditeurs de votre radio.
Merci.
La question que vous me posez, quelle est mon analyse de la situation sécuritaire de mon pays? Vous savez quand même qu'on est loin, sinon très loin, de la situation que le pays était en train de vivre il y a une dizaine d'années de cela. Donc il y a une nette amélioration de la situation sécuritaire. Pour autant, il n'y a pas d'insécurité zéro ou il n'y a pas de sécurité 100%. Sinon, les États-Unis n'auraient pas subi ce qu'ils ont subi en 2001, le 11 septembre. Ils ont été frappés dans leur cœur, le palais présidentiel à Maison-Blanche. Le ministère de la Défense a été touché. Mais également, il y a le symbole même de la puissance des États-Unis, à savoir les tours jumelles ont été frappées. Le monde en a été témoin. Il y a eu plus de 3000 morts. Donc, il n'y a pas de sécurité 100%. Et c'est vrai qu'on parle de la mort du chef djihadiste le dimanche passé, le 21 de ce mois. Mais avant ça, je pense que le 2 janvier, il y a une attaque qui avait été repoussée par l'armée malienne. Et le 14, au moment où le Mali était en train de célébrer la fête de l'armée.
La fête de la souveraineté nationale.
Oui, la fête de la souveraineté nationale, excusez-moi. Il y a effectivement une attaque qui a été aussi déjouée dans la ville de Menaka. Et il y a eu des frappes qui ont neutralisé des terroristes et qui ont détruit des matériels de guerre. Et mais aussi de la logistique. Donc, la mort de ces djihadistes est une des consécrations, je dis bien, je pèse mes mots, est une des consécrations de la victoire du Mali, de manière générale, de tout le Mali, de manière générale, sur les forces du mal, qui veulent en tout cas nuire à notre dignité, à l'intégrité de notre territoire, à notre souveraineté. Et donc, c'est le fruit de la résistance de l'ensemble du Mali, c'est le fruit de la résilience du peuple malien, mais en particulier, c'est aussi le fruit de la détermination et de l'engagement de notre armée à libérer, à redonner à notre pays sa dignité et sa liberté. Et ce que sa mort signifie, c'est que le terrorisme est loin d'être fini. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les terroristes sont terrorisés dans leur entreprise.
D'accord. Paul Oula, pour Dr Bakabeni Keïta, la mort du terroriste résulte de la résilience de la population malienne et également de l'armée malienne. Est-ce que pour vous, la neutralisation du chef terroriste est un coup dur dans la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara qui opère dans la région de Meneka?
Alors, merci beaucoup, M. Imaran. Pour moi, je pense que la mort de ce chef terroriste constitue ce qu'on appelle une épine de moins dans les pieds non seulement des communautés, mais aussi pour les forces de défense et de sécurité. Vous savez, ce sont les leaders terroristes qui constituent ce qu'on appelle la machine de la conception idéologique du terrorisme. Alors, abattre un chef terroriste constitue une victoire, si on peut le dire, plus ou moins comme une victoire. Alors, le terrorisme qui sévit plus précisément dans la zone de Menaka, je vais juste m'apesantir à partir de la zone de Menaka pour ensuite faire une analyse générale. C'est une forme de terrorisme qui est un peu particulière par rapport aux autres localités, si on essaie de voir. Parce que la région de Menaka, pratiquement, nous avons l'IGS, nous avons non seulement l'IGS, nous avons aussi une partie du Daesh qui opère dans la localité. Ce qui n'est pas très, très plausible dans les autres localités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette région est en train d'être le fruit des attaques de la part de ces deux groupes qui se trouvent en face d'eux, des communautés aussi, qui ne soufflent pas aussi dans la même trompette que ces deux groupes. Donc du coup, il fallait voir un peu d'une manière analytique que le terrorisme qui sévit dans cette localité est plus ou moins une forme de terrorisme qui s'inscrit dans une logique antagonique entre les groupes qui opère dans la localité. Alors, pour revenir maintenant au fait que l'armée a abattu ce groupe, ce leader terroriste, je pense que c'est la combinaison de plusieurs éléments qui entrent en jeu. D'abord, ça montre à la communauté internationale qu'après leur départ, l'armée a pu combler le déficit sécuritaire. Ce qui veut dire que cette communauté internationale ne jouait pas franc jeu dans la lutte antiterroriste. Premier aspect. Le second aspect, c'est quoi? Ça montre que notre armée est dotée quand même d'une puissance de feu assez puissante. Et troisième élément, ça donne une lueur d'espoir aux communautés qui sont frappées par le terrorisme. Maintenant, à partir de là, je pense aussi qu'il faut réellement penser à redorer un peu le blason en essayant de combiner un peu des approches spirituelles pour essayer de juguler aussi ce fléau. Parce que le terrorisme en tant que tel s'est composé en trois parties, si on peut le dire. Le premier aspect, c'est quoi? C'est ceux qui combattent. Je l'ai dit tantôt à l'entente de mes propos que les leaders sont les concepteurs. Et dans le second groupe, vous avez ceux qui financent. Et le troisième élément, dans le troisième groupe, vous avez ceux qui combattent.
Alors, d'accord. Pour le chef terroriste qui a été neutralisé dans la région de Menaka est connu pour ses actions atroces qu'il mène dans la région de Menaka. Est-ce que sa mort va changer quelque chose dans l'organisation de l'État islamique dans la région de Menaka?
Bien évidemment, oui. Je l'ai dit que ce sont les concepteurs. Les leaders sont les concepteurs. Si on essaie de voir, même avec le cas de Hakmi et de Al-Mourabitoun, lorsque Abu Walid avait été abattu, nous avons vu qu'il y a eu une désagrégation organisationnelle au niveau même de ces structures opérationnelles. Donc, ça sera aussi le cas pour l'État islamique dans le Grand Sahara. Ça sera un coup très dur, un coup fatal pour la structuration même de l'EGF.
D'accord. Docteur Yacouba Adogoni, vous êtes sociologue et enseignant-chercheur également. La mort du chef terroriste de la région de Ménéka, notamment de l'État islamique, pourrait-il changer quelque chose, pourrait-il changer la donne de la lutte contre l'État islamique de la région de Ménéka?
Merci beaucoup pour la question. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une pensée pieuse à tous les militaires qui sont engagés dans les différentes opérations, de Kaï jusqu'à Ménaka, en passant par Kidal et tout cela. Vous comprendrez que depuis très longtemps, notre armée est en cours de restructuration. Et cela se comprend à travers les différentes opérations qui sont menées, d'abord qui ont été organisées, en commençant par l'opération Maliko. Et cette opération avait pour but non seulement de structurer l'armée malienne qui était en cours de désagrégation, mais aussi de permettre à cette armée de se doter d'équipements fiables pour permettre vraiment de mener à bien le combat contre le terrorisme. Après, il y a eu une deuxième opération, l'opération Kalatiki, qui était une opération fondée essentiellement sur la doctrine militaire, consistant cette fois-ci à aller chercher les groupes armés, quels que soient où ils se trouvent, dans les endroits là où ils se trouvent. Alors, cette opération a vraiment porté énormément de fruits. C'est d'ailleurs ce qui a permis même de récupérer les régions qui échappaient le contrôle de l'autorité malienne depuis 2012, notamment certaines régions du centre, mais aussi plusieurs régions du nord, notamment une grande partie de la région de Gao et la région de Kidal, et une grande partie aussi des cercles de Kidal, notamment Agelhok et Tessalit. Aujourd'hui, nous sommes à une troisième phase de l'opération qu'on appelle l'opération Dougouloko. Cette opération a pour but de quadriller l'ensemble du territoire malien, non seulement pour recouvrir l'intégrité territoriale du Mali, mais aussi de permettre vraiment à ce que la paix puisse se restaurer. Alors, donc, c'est ça aussi le but. Donc, quand on regarde aujourd'hui la force de frappe de l'armée malienne et qu'on regarde aujourd'hui avec l'absence de tout ce que nous avons considéré comme étant des acteurs pouvant nous aider à ramener la paix au Mali, alors on peut se dire qu'aujourd'hui, l'armée malienne est prête vraiment à s'engager sur tous les terrains. D'ailleurs, cela dénote l'élimination du chef terroriste à Ménaka. Vous savez, lorsque vous regardez, vous analysez un peu ce qui se passe au pays, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il est très difficile pour les groupes terroristes vraiment de pouvoir opérer sur le territoire du Mali. Compte tenu de tous les équipements que l'armée malienne a pu se doter. Et ce qui fait que la porosité des frontières, qui est un facteur un peu qui joue en défaveur de toutes les armées du monde, parce que les groupes armés qui sont sur le territoire du Mali connaissent également la géopolitique et connaissent également les enjeux des nations.
Pardon, est-ce que la mort de ce chef terroriste et de ses lieutenants, y compris ses autres compagnons qui ont été neutralisés par l'armée malienne, pourra-t-elle désorganiser l'organisation de ce groupe terroriste qui opère dans la région de Ménéka?
Moi, je suis un peu optimiste pour cela, mais je dis également que les groupes armés terroristes sont également structurés de la même manière qu'une armée régulière. Donc, c'est pour dire que le problème de sécession ne se pose pas très souvent, parce qu'ils savent aujourd'hui que l'armée malienne étant équipée, l'armée malienne étant dotée d'appareils sophistiqués permettant vraiment de les identifier, de les détruire. Donc, ils ont déjà préparé la succession. Donc, cette succession permet alors de compenser déjà un chef éliminé. Chaque fois qu'un chef est éliminé, on sait déjà qui est son adjoint et qui doit prendre le pouvoir. Donc ils sont également prêts pour ça. Donc c'est à l'armée malienne maintenant de continuer toujours avec ses frappes, de les dénicher là où ils se trouvent. Et afin que cette situation ne puisse pas prendre une assise sur l'insécurité. C'est aussi important d'en parler, parce que quand on regarde un peu la zone, la bande frontalière, le Mali, l'Algérie et jusqu'au Niger, on sait très bien qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques qui sont là-dedans et qu'il y a certains pays, par exemple, qui ne veulent pas que l'armée malienne s'approche à leurs frontières. Donc, du coup, les groupes terroristes profitent également de cette mésentente politique entre les différents pays pour pouvoir poser leurs nids. Donc, c'est à l'armée malienne vraiment de pouvoir mettre en place des stratégies internationales et doctrinaires et pour essayer de collaborer avec les différentes armées des pays frontières. Je ne parlerai pas du Niger. Nous sommes quand même que dans cette dynamique, nous sommes déjà dans cette dynamique avec le Niger. Mais voir comment on peut collaborer avec l'Algérie pour contrôler. Parce que jusqu'à preuve de contraire, lorsque vous regardez ce qui se passe dans la zone, tant qu'on n'arrive pas à avoir la même mise sur Al-Khalil, alors on peut toujours dire qu'il y a un doute par rapport à la lutte contre le terrorisme, parce que c'est quand même Al-Khalil qui constitue vraiment la zone où résident pas mal de terroristes qui opèrent sur le territoire du Mali. D'accord. Et que c'est vraiment une zone qui est extrêmement proche aussi de l'Algérie. Donc là, ça remet en cause tous les efforts que nous sommes en train de déployer aujourd'hui pour la lutte contre le terrorisme.
D'accord. Docteur Bakabini Keïta, l'armée malienne pourra-t-elle venir à bout de la lutte de l'État islamique au Grand Sahara, dans la région de Menega?
Je pense que j'avais dit dans ma première intervention qu'il n'y a pas de sécurité 100%. Et donc, je ne dirais pas que dans un bref délai qu'il n'y aura pas du tout d'attaque terroriste. Mais il est aussi évident, en naviguant contre une idée stoïcienne qui consiste à dire que la meilleure dimension du temps, c'est le présent. Moi, je dirais aussi qu'on ne peut pas comprendre le présent sans aussi se souvenir du passé. Donc, quand on essaie de voir un passé récent de notre pays, il y a eu Agelog, je crois en 2012. Après, il y a eu une série d'attaques de tueries dans des localités de notre pays, à savoir Ogosago, Djoura, Sobanedaï, Indeliman, etc., etc. Donc, si on essaie de voir, si on se souvient ce qui s'est passé en ce moment-là, où l'armée malienne était appelée une armée de repli tactique. Donc, on voit aujourd'hui qu'on n'est plus à cette période. Et une nouvelle période s'est ouverte à notre armée. Ce que certains ont appelé la puissance, la montée en puissance de notre armée. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'il y a une redynamisation en termes de nombre, en termes de formation, mais en même temps aussi en termes d'équipement. Mais il faut aussi tenir compte de la configuration géopolitique. Je crois que le collègue en a parlé, sans rentrer dans le fond, ou en traitant certains aspects, en laissant d'autres. Et quand vous prenez, par exemple, la création de l'AIS, je pense que ça, c'est un grand atout pour le Mali et pour tous les pays, notamment les trois pays qui sont concernés par ce fléau, à savoir le Mali, le Burkina et puis le Niger. L'AIS est un atout dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi c'est un atout? Parce que ce qu'on a appelé la zone des trois frontières, c'était le nid du terrorisme. Bon, c'est vrai qu'il faut craindre la frontière Mali-Algérie, mais il est évident aussi que la frontière entre ces trois pays constitue un danger. Et le fait qu'aujourd'hui, le Mali opère ensemble avec les deux autres pays, à savoir le Burkina Faso et le Niger, je crois que ça, c'est un coup dur contre les terroristes. Et donc, la mort de ce chef terroriste nous donne de l'espoir, nous installe dans une posture où on peut dire que le Mali, en tout cas, aujourd'hui, est en train, avec ses voisins, dont le Burkina Faso et puis le Niger, sont en train de réussir la lutte contre le terrorisme. Évidemment, le terrorisme, en parlons-en, on sait aussi que les terroristes ont des sponsors. Les armes qu'ils achètent, on peut se poser la question, d'où est-ce que ces armes proviennent ?
Mais avant, quand on regarde le parcours de l'armée malienne dans la région de Kidal, à l'espace de quelques mois, l'armée est parvenue à repousser les groupes armés qui occupaient cette région. Mais comment se fait-il que la présence de l'État islamique dans la région de Meneka se fait sentir du jour en jour ?
Paul Oula l'avait dit que, je crois, il y a un instant que notre armée, donc, depuis un certain moment, donc, a réussi à s'imposer depuis un certain moment, a réussi à s'imposer au groupe terroriste, malgré qu'il y a des résurgences, il y a une recrudescence, effectivement, des attaques, mais... Il est clair que depuis ce qu'on a appelé la montée en puissance de l'armée, que l'armée malienne est en train de réussir en tout cas des coups assez importants. On peut effectivement parler de la prise de Kidal, ce qui n'était pas évident à un certain moment. On avait prédit la suite du Mali que lorsque Barkhane allait partir. On avait prédit la suite du Mali lorsque la MINUSMA allait se retirer. Et donc, aujourd'hui, et la mort de ce chef djihadiste est un démenti contre tout ce discours-là, ce discours que j'appelle le discours de la promotion de la peur, donc qui consiste à faire peur à notre peuple, mais aussi à pousser le peuple contre les dirigeants, et donc pour déstabiliser notre pays au profit de certaines puissances. Donc il est évident que c'est un pas extrêmement important et pour le Mali est un coup extrêmement dur contre les groupes terroristes avec la mort de ce chef djihadiste ainsi que certains de son entourage, notamment deux lieutenants et puis plusieurs combattants de ces groupes-là.
D'accord. Paul Ouya, comment sécuriser les populations de la région de Meneka qui sévit dans cette zone où l'État islamique opère?
Alors, moi je propose plusieurs approches. La première, c'est quoi? C'est que la sécurité des communautés revient de facto aux forces de défense et de sécurité. L'armée doit encore engranger des efforts pour mettre à bout ces groupes terroristes. Ensuite, je pense qu'on doit aujourd'hui penser à mettre à place ce qu'on appelle d'autres mécanismes, c'est-à-dire complémentaires, qui existaient mais qui n'étaient pas formalisés. Je parle, par exemple, de l'implication des groupes armés. Je ne veux pas trop ethniciser, si on peut le dire, les communautés qui ont décidé quand même de se défendre. Je vais les appeler, par exemple, les groupes d'autodéfense. Donc, je pense que dans la zone de Meneka, ces groupes ont réellement joué leur partition dans la sécurisation de leur communauté. Donc je pense qu'aujourd'hui l'État doit mettre un mécanisme en place pour que ces groupes d'autodéfense puissent coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Parce que vous savez, quand l'insécurité s'installe dans une localité, pour l'éradiquer, il faudra du temps. Alors les communautés quand même sont dotés de cette connaissance sociologique et même anthropologique à pouvoir faire le distinguo entre le vrai avec l'ivraie. Par exemple, ils sont en mesure de dire telle personne est terroriste, telle personne ne l'est pas. Et tel n'est pas le cas avec les forces de défense et de sécurité maliennes qui sont quand même inscrites dans une logique doctrinale qui n'est autre que telle personne détient de l'arme, alors il est considéré comme un ennemi. Parce que vous le savez, dans toutes les doctrines militaires, c'est les forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à sécuriser les communautés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudra réellement pistonner à ce niveau-là pour essayer d'avoir un sursaut au niveau de cette petite brouille existentielle dans la zone de Minaka. Maintenant, en dehors de cela, je pense aussi qu'il faut réellement jouer sur le levier spirituel. Parce que vous savez, aujourd'hui, le terrorisme qui sévit dans la localité même, bon, je peux le dire dans tout le Sahel, est fondé, si on peut le dire, en grande partie dans le volet spirituel, dans le volet religieux. Et aujourd'hui, il est séant qu'on pense à mettre en place aujourd'hui à faire émerger d'autres leaders religieux, par exemple, qui puissent contrer argument contre argument sur le plan spirituel, à battre en brèche les arguments qui seraient soutenus par ces groupes terroristes. Donc, ça permettra de briser les glaces en dehors de l'approche militaire. Parce que, il faut le dire, l'approche militaire, elle n'est pas suffisante. D'accord. Il faudra d'autres approches parallèles.
Vous avez tous parlé de l'évolution positive de la situation sécuritaire dans le pays. Est-ce à dire que cette évolution est-elle rassurante ou inquiétante?
Oui, l'évolution, elle est très rassurante parce qu'il faut le dire, ceux qui étaient en train d'occuper ces territoires étaient animés par un sentiment de vouloir imposer là-bas leurs idéaux. Et aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Le fait que l'armée est en train de récupérer ces localités, elle prouve à suffisance que c'est rassurant. Ça prouve à suffisance aujourd'hui que l'espoir est permis.
D'accord. Pendant ce temps, l'enlèvement des enfants devient un phénomène récurrent dans le nord du pays. Au mois d'avril dernier, au moins 30 enfants ont été enlevés par des individus à moto et à bord de véhicules. Ces enfants capturés à Inabelbel et Igassan dans le cercle de Rarous, région de Tombouctou, sont enlevés selon leurs proches pour des fins en lien avec la traite des personnes ou l'esclavage. Ces derniers demandent aux autorités d'intercéder pour la libération de leurs enfants. Alassane Aga Yakuba est l'un des parents des victimes. Il est joint au téléphone par Fatih Yatara.
Ces individus viennent à moto et souvent à bord de véhicules. Certains mettent les armes sur les tempes des villageois, d'autres se mettent à prendre les enfants de force pour les mettre dans les engins. Ils menacent de tuer toute personne qui tente de protester. Les villageois, n'ayant aucune arme ni autre moyen, sont réduits au silence. La dernière scène, c'était dans mon hameau. Quand ils ont tenté d'enlever ma nièce, son oncle a protesté. Lorsqu'ils ont braqué le fusil sur lui, sa maman a crié et a intercédé pour lui demander de les laisser partir avec la fille afin qu'il ait la vie sauve. On a alerté les autorités pour retrouver nos enfants, mais rien n'a filtré jusqu'à présent.
Voilà, à l'instant, c'était là la réaction d'Alassane Aga Yakuba, un des parents des victimes de cette situation. Comment comprenez-vous qu'au moment où on parle d'une évolution de la situation sécuritaire, que des enfants soient victimes dans dans le nord du pays? Yakuba, docteur.
Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur la situation qui prévalait dans la zone depuis très longtemps. Vous ne connaissez pas certainement toute la zone de Dansongo, mais dans la commune de Boura, par exemple, il y avait eu déjà cette tentative de recrutement des enfants. Parce que déjà l'armée malienne, avec sa montée en puissance, avait vraiment porté un coup dur au groupe en termes de réduction d'effectifs de ces groupes armés. Et aujourd'hui, cette capacité d'intervention des groupes a été considérablement réduite. Et du coup, tous les moyens pour eux sont vraiment bons pour pouvoir recruter. Et je dirais que aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme n'est pas de la métaphysique. Ça demande beaucoup vraiment de stratégies à mettre en place pour pouvoir contrôler non seulement ce qui se passe au niveau des enfants, mais également dans la même production même des effets. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, cette tentative d'enlèvement ou même ces enlèvements, elles sont plutôt une manière vraiment de reproduire la chaîne du terrorisme, d'entretenir la chaîne du terrorisme. Parce que si on enlève les enfants, étant donné qu'on n'a pas assez de combattants, ça prouve à suffisance que dans les groupes armés que l'armée malienne est en train de combattre, utilise faussement des enfants. Donc cela n'interpelle pas seulement l'armée ou bien les Maliens ou les autres autorités maliennes. Ça interpelle la communauté internationale qui est en charge de la protection des enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à cela. On sait quand même qu'au niveau du Bureau international du travail, il y a eu des conventions que les États ont ratifiées et ces conventions répriment toute utilisation des enfants dans les groupes armés. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important à ce qu'on se repenche sur cette question qui n'est pas une question qui relève seulement du Mali, mais de la communauté internationale. Tout le monde doit s'impliquer dans cela afin de protéger les enfants qui sont exposés à des situations de conflit.
D'accord. Alors, quelle assistance pour ces enfants à lever dans le cercle de Gourmararous, région de Tombouctou, notamment Inabelbel et Ngassan?
Moi, je dirais que c'est juste pour montrer, c'est un effet médiatique que ces gens ont toujours voulu véhiculer pour que les gens puissent se rendre compte qu'effectivement, ils sont toujours là, ils existent toujours. Mais ce qu'on peut faire, moi, je dirais que c'est, dans un premier temps, c'est le rôle de l'État vraiment de protéger tous ses enfants, tous ses fils, que ce soit à Kidal, à Menaka, à Sikasso, ou partout où les Maliens se trouvent, à l'extérieur, tout ça. Donc, c'est vraiment le rôle de l'État de protéger ses enfants. Et une fois que ce rôle est investi, c'est à l'armée maintenant de se déployer sur le terrain maintenant pour pouvoir mettre en place des stratégies de récupération de ces enfants. Mais je dirais que cette stratégie ne peut pas aller forcément avec l'utilisation des armes, parce qu'on sait quand même que les enfants ne sont pas forcément formés afin de se protéger quand il y a une intervention militaire pour leur libération. Donc les enfants ne sont pas formés pour se protéger contre les balles. Ce qui a lieu de faire, c'est plutôt vraiment de voir en place des mécanismes locaux permettant vraiment de récupérer ces enfants. Déjà, ce cri de cœur avait été lancé par les parents depuis 2012, parce que dans certaines localités des régions du Nord, déjà, avec la fermeture des écoles, donc les enfants n'étaient vraiment pas occupés. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés dans les groupes armés pour penser protéger les biens de leur famille, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas prêts pour ça. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui existent, que l'État était au courant, et il est temps vraiment à ce qu'on réagisse pour pouvoir limiter les effets pervers de ces enlèvements, et n'est pas que ces enfants qui sont aujourd'hui enlevés puissent devenir les prochains terroristes qui vont continuer toujours à terroriser les populations du nord et du centre, voire du sud.
D'accord. Docteur Bakabeni Keïta, quelle stratégie faut-il adopter pour apporter assistance à ces enfants enlevés et les ramener sains et saufs à leurs parents?
Pour les enfants enlevés, évidemment, c'est un peu compliqué. Les récupérer, je crois, s'inscrit forcément, c'est un travail qui va s'inscrire dans le cadre global de la sécurisation du pays. Mais en même temps, peut-être penser à mettre en place des dispositifs militaires sécuritaires pour pouvoir d'abord les localiser et ensuite, une fois qu'ils sont repérés, et donc voir mettre en place des stratégies pour faire en sorte qu'ils puissent être récupérés. Sans...
Quel type de stratégie?
Des stratégies multiples, variées, militaires et autres. Donc,
il a parlé tout de suite de mécanismes locaux. Est-ce à dire qu'il faut impliquer maintenant les légitimités traditionnelles?
Oui, les légitimités, ça peut venir
de l'État.
En leur
donnant quel rôle?
Des rôles de négociation, mais en même temps aussi entre peut-être même que ça soit que l'État soit impliqué ou le gouvernement soit impliqué ou pas. Et donc, au niveau local, donc, il peut y avoir des initiatives et des actions qui s'inscrivent dans le sens à faire en sorte que ces enfants puissent se retourner sains et saufs dans leur famille. Mais ce qu'il faut aussi penser, il faut peut-être penser à prévenir des situations de ce genre. Je pense qu'il y a un dispositif national qui a été mis en place pour le bien de toutes les victimes des crises au Mali. Et donc, y compris donc, de ces enfants-là, ces dispositifs peuvent s'en saisir. Mais il y a aussi des organismes privées et publiques qui s'inscrivent dans le cadre de la protection des droits des enfants. Et donc, ces organismes aussi peuvent s'impliquer, notamment en essayant de regrouper les enfants qui se trouvent dans les localités assez reculées, donc en les regrouper dans les centres urbains et semi-urbains, donc en attendant donc des situations, des jours meilleurs pour la sécurité dans les villages hameaux et fractions. Parce qu'il est extrêmement difficile. Vous savez que notre territoire aussi est assez vaste, donc 1 241 000 km². Donc s'il faut qu'il y ait un déploiement sécuritaire dans tous les villages armés ou autres. Donc c'est pour cette raison, je dis, il faut penser à faire venir les enfants dans les centres urbains et les centres émi-urbains.
Mais est-ce à dire que les stratégies adoptées pour lutter contre le terrorisme ont-elles montré leurs limites?
Non, c'est pas que les stratégies ont montré leurs limites, mais il y a des stratégies qui se complètent. Donc moi, je viens en complément stratégique pour renforcer les stratégies qui sont déjà en place, sans, loin de les invalider, mais on peut les renforcer parce que vous savez que s'il y a quelque chose qui hérisse, c'est surtout la conscience de l'homme. Donc on est capable d'inventer. Donc c'est mieux qu'à chaque fois qu'on essaie de voir si on peut améliorer les stratégies existantes. Maintenant, ce que je voudrais aussi ajouter, sauf si vous avez une question spécifique.
Alors, comment parvenir à instaurer, selon vous, la quiétude dans nos villes, en dehors de ces stratégies que vous avez annoncées?
Dans les villes?
Oui.
Bon, la quiétude, je pense que l'armée nationale, l'armée est déjà dans cette optique-là. Les efforts qui sont en cours, c'est dans le but, en tout cas, de faire en sorte que la quiétude puisse revenir, en fait, dans toutes les localités du Mali, y compris surtout dans les localités qui se trouvent au nord et au centre du pays, qui sont vraiment victimes de ce fléau-là. Et je pense que les efforts sont en cours, donc il s'agit de les renforcer, les intensifier, donc pour faire en sorte que le Mali puisse, les Maliens puissent connaître la paix et la sécurité.
D'accord. Oui. Allez-y.
Oui.
En attendant qu'on va.
En fait, en parlant des mécanismes locaux. Moi, je voudrais insister sur certains éléments en essayant vraiment de rectifier certains propos qui ont été tenus ici. Déjà, lorsque les enfants vivent dans une communauté, déjà les faire déplacer, c'est extrêmement difficile parce que c'est quelque chose qui va contre l'aigre. Parce que une fois que vous déplacez un enfant, vous avez énormément de problèmes. Son insertion sociale devient plus difficile à l'absence de ses parents. Ça, c'est déjà un premier cas. Et je dirais encore qu'il n'est pas important à ce que tous les enfants soient déplacés de leur zone de résidence avec les parents et les amener dans les centres urbains. L'armée malienne s'est dotée d'outils, de matériel permettant d'intervenir sur l'ensemble du territoire malien et en toute autonomie. Je le dis en connaissance de cause. Donc, il suffit de mettre en place, c'est-à-dire que des stratégies de dialogue. Je dirais que quand vous partez, par exemple, dans certaines zones, par exemple, dans tous les groupes...
Des stratégies de dialogue avec qui? Avec les terroristes,
oui,
avec les groupes?
Non, j'arrive. Quand vous partez dans ces localités, vous trouverez que les groupes qui opèrent dans ces localités, il y a forcément un des habitants de ces localités alors qui évolue avec ces groupes. Donc, certainement, on peut établir le contact avec ces personnes-là qui sont déjà dans ces groupes-là et essayer vraiment d'échanger avec eux sur l'importance vraiment de la présence des enfants aux côtés de leurs parents. Une fois que ces stratégies sont établies, ces dialogues sont établis entre les partisans et les victimes, alors il est fort probable à ce que les enfants puissent se retourner. Et je dirais qu'il n'est pas forcément possible que ce déplacement de ces enfants puisse ne pas créer vraiment un autre problème, surtout au niveau du transport. Parce que si vous n'arrivez pas à sécuriser l'itinéraire, alors vous exposerez davantage ces enfants-là à l'insécurité.
D'accord. Paul Oula, un dialogue avec les partisans ou les victimes peut-il ramener la quiétude dans nos villes?
Ok. Bon, vous savez, cette fois-ci, je serai purement dans le réalisme.
Comment ça?
Oui, pour ne pas tomber dans l'utopie. Voilà. Donc maintenant, moi, je pense que aujourd'hui, D'une part, je suis d'accord avec mon collègue Bakabeni qui disait qu'il faut prévenir. Mais prévenir, c'est l'idéal. Mais dans un contexte aussi gangréné par l'instabilité sporadique qui pullule par-ci, par-là, tantôt c'est au sud, tantôt c'est au centre, tantôt c'est à l'est, tantôt c'est au nord. Bon, je pense que dans ce cas, prévenir serait difficile. C'est l'idéal, mais ce serait difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il
faut... Qui doit prévenir quoi ?
Prévenir le rapt de ces enfants-là.
C'est mais est-ce possible ?
C'est ce que je dis, ça sera difficile. C'est l'idéal, ça sera difficile.
C'est quelque chose de parce nouveau. Parce que l'instabilité... C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans
oui,
cette zone.
Oui, c'est l'instabilité aujourd'hui, elle est volatile. L'insécurité aujourd'hui, elle est volatile. Elle n'est pas figée, elle n'est pas centrée. Ce n'était pas comme auparavant, l'insécurité était stricto centro dans la partie septentrionale. Tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, elle est volatile, mais elle s'inscrit dans une logique sporadique. Et puis, c'est inopiné et c'est imprévisible. Et au regard de la vastitude du territoire, moi, je pense que prévenir ici, ça serait très difficile. C'est l'idéal, mais ça serait très difficile. Alors,
qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qui pourrait être plus facile
qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui,
ce qui est difficile?
Je pense aujourd'hui, ce qu'on doit proposer d'abord aux autorités, c'est de repérer aujourd'hui là où les enfants sont. Qui les a enlevés? Où ils sont? Je pense que là-bas, le GPS et tout l'armada matérielle que détient aujourd'hui notre armée, on sera en mesure aujourd'hui de géolocaliser ces enfants.
Le moyen de repérer ces enfants enlevés.
Mon ami, ça c'est la moindre des choses. C'est très facile. Mais on a géolocalisé les groupes terroristes. Celui qu'on a abattu avant-hier, il a été géolocalisé. Ben, mon ami, ça c'est à la minute près. Maintenant, moi je pense qu'une fois géolocalisé, il serait risqué d'entamer l'approche militaire parce que ça risquerait de coûter à la vie de ces enfants-là. Parce que vous savez, quand vous faites le rapt là, vous êtes en position de force. Soit, une fois que vous voyez qu'on veut procéder à la libération de vos otages par la voie militaire, mais mon cher, vous serez obligé d'abattre.
Une fois géolocalisé en évitant la voie militaire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant
pour récupérer ces enfants? Qu'est-ce qu'il faudra mettre aujourd'hui? Moi, je prône deux approches. La première, c'est quoi? Une fois qu'on aura géolocalisé ces enfants, il faudra mettre en place un mécanisme de dialogue entre les organisations humanitaires qui opèrent dans la zone. Parce que vous savez, il faut être clair là-dessus. Hein, les organisations humanitaires aujourd'hui ne sont pas empêchés d'opérer dans ces localités-là. Donc, il peut avoir quand même un point de négociation entre eux avec ceux qui ont fait le rapt, premier élément. Deuxième élément, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi impliquer les communautés, parce que mon collègue Dogoni aussi l'a dit. Vous savez, il faut qu'on soit réellement... Il faut qu'on sache que ces groupes terroristes entretiennent des liens étroits avec des locaux. Donc, si vous voyez aujourd'hui que ce sont des enfants qui ont été pris en otage, il y a quand même des locaux qui savent ces enfants-là sont avec qui.
D'accord.
Donc, il faut les dénicher
pour pouvoir
ouvrir
qu'il nous reste
un couloir de dialogue.
On va donner le temps à Dr Bakabeni Keïta. Que faut-il craindre dans la lutte contre le terrorisme au Mali aujourd'hui?
Bon, je voudrais, sans créer de polémique, quand même dire à mes collègues que je ne crois pas que ma proposition soit contraire à ce qu'ils disent. Je viens en complément de toutes les stratégies qui existent en place. Par exemple, quand vous me dites qu'il y a dans toutes les attaques terroristes ou les groupes terroristes, il y a des locaux qui sont impliqués. Donc si, au fait, on pouvait, ces locaux-là pouvaient, c'est-à-dire que l'implication des communautés locales en rapport avec ceux qui sont impliqués dans les groupes terroristes pouvait apporter quelque chose, on ne sera pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc ça veut dire que, quelque part aussi, que cette voie n'a pas donné quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut explorer d'autres voies. Donc, il ne faut pas rester dans l'idée que c'est difficile. Mais rien n'est facile. Ça, c'est un. De deux, La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de solution sans problème. Donc, toutes les solutions que vous allez proposer ont ses revers, évidemment. Et malheureusement, les actions humaines aussi sont comme ça. Et, par exemple, le fait de repérer les enfants, comme l'a dit Paul Lola, et vouloir les récupérer par la force militaire, ça va être extrêmement compliqué. Donc, vous mettez en danger, en péril. Donc, en amont, je pense qu'il faut mettre aussi en place des stratégies de prévention. Et je pense que ces stratégies de prévention sont multiples et variées. Moi, je ne fais qu'indiquer une voie. Donc, on peut en trouver mieux que ça. Donc, maintenant, la question que vous posez, qu'est-ce qu'il faut craindre
dans la lutte.
Dans la lutte contre le terrorisme, ce qu'il faut éviter, c'est un certain type de discours. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des communautés qui sont impliquées dans ce fléau, ça, on le sait. Mais je pense que les autorités maliennes, notamment le premier ministre, a eu à le dire. Il n'y a pas une seule communauté qui est impliquée. Donc, il y a plusieurs communautés, y compris des Malinkés. Il a même dit qu'il y a même un Keïta.
D'accord. Merci, Baka Beni Keïta. On me fait signe que nous n'avons plus de temps. Et voilà, nous parlons de l'insécurité, comment parvenir à éradiquer le terrorisme au Mali. Et nous étions avec Paul Oula, analyste des questions sécuritaires, Dr Yacouba Dogoni, sociologue, enseignant à l'Université du Mali, chercheur associé au Centre de recherche à Point Sud, et Dr Baka Beni Keïta, enseignant-chercheur également à l'ENSUP. À la présentation, je suis Emrana Akilo Maïga. À la régie vidéo, Nuhun Adjire, Gagné Kanté et Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiri.
Haloud Mouni.
Chenibiri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.